Aujourd'hui à Tam Tam, Fort McMurray en Alberta, l'Acadienne d'origine Angelina Gionnet a le sort des femmes francophones à cœur. Tanvir Alam, la danse katak du nord de l'Inde à saveur montréalaise et torontoise. Sept enfants, une école de pâtisserie plus tard, l'histoire de Mimi Sambou. Mais d'abord, le sud du Canada est aux prises avec de fortes inondations dans plusieurs de ses régions. Qu'en est-il de ces frais couverts par votre assureur? Bonjour, bonjour, ici Raymond Desmarteaux. Les crues printanières qui touchent plusieurs régions au Québec et aussi en Ontario ont été dévastatrices pour des gens vivant près, en fait, d'importants plans d'eau. Léo Gimeno, Leonardo, bonjour.
Bonjour.
Leonardo, vous êtes dans un de ces... Vous n'êtes pas touché personnellement, mais
oui.
vous êtes tout près, vous, de votre...
En fait, je suis touché, mais du sixième degré. Parce que mes enfants, ils ont perdu celle la plus vieille, 3 jours d'école. Parce que l'école, il couvre une portion pas mal grande, l'école secondaire, puis touche l'île Bizarre, puis partie de Sainte-Geneviève, qui ont été pas mal touchées, Pierrefonds aussi.
On parle de l'ouest de l'île de Montréal.
C'est ça.
Où vous vivez. La maison, ça va.
Oui.
Mais frères, sœurs, cousins?
Mon frère, il habite à l'île Bizarre, puis j'ai un cousin qui habite sur le bord de Pierrefonds. En fait, il prenait toujours des photos les matins pour me montrer où l'eau y arrivait. C'était pas mal haute, là. On voyait plus les trottoirs. C'était vraiment des trottoirs à trottoirs. Les lignes de la rue, elles ont disparu sous l'eau. Puis, il y avait beaucoup de sentiments. On sait pas quoi faire parce que lui, il habite, par exemple, dans une sous-sol. Alors, c'est compliqué si ça
tout
commence
part,
à rentrer. Mais il n'y a pas rentré l'eau. Il a commencé à descendre. Puis, ça va bien maintenant.
Sauf qu'on attend des pluies ce week-end. Il y a de la neige dans les bassins versants dans le nord. On parle du Témiscamingue, du nord, des Laurentides aussi. Et tout ça se déverse vers l'Outaouais. L'Outaouais, c'est vers le lac des Deux-Montagnes et c'est vers chez vous.
C'est ça. Et en fait, ils ne sont pas préoccupés par la pluie de fin de semaine. C'est plutôt pour les choses qui se passent plus haut. Parce que tout l'eau,
c'est ça.
Il va descendre par le fleuve, puis c'est certainement une couche de plus d'eau qu'il va avoir, ces gens-là.
Pour bien des gens, la résidence familiale, c'est, en fait, souvent aussi, c'est l'achat d'une vie. Là. Sera une perte totale, il faudra rebâtir. Pour d'autres personnes, l'eau qui s'est infiltrée au sous-sol, il y a des dommages, c'est peut-être un peu moins important. Qu'est-ce qui est couvert? Qu'est-ce qui ne l'est pas par l'assureur? Comment est-ce qu'on trouve des réponses quand on vit de fortes tensions aussi?
Ouais.
Assurez-vous d'avoir votre formulaire d'assurance bien près de vous. Cette semaine, Marie Jobin a joint Marc Levasseur. Monsieur Levasseur est porte-parole de Canetix, une entreprise qui est spécialisée dans l'offre d'assurance de différentes compagnies sur le web. Elle lui a d'abord demandé d'y aller d'un premier débroussaillage.
Les frais de subsistance, c'est le bon exemple, mais certains contrats d'assurance vont couvrir les frais de subsistance. Et ça, ce qu'il faut faire pour le savoir, de toute façon, dès qu'il y a un sinistre, la première chose à faire, c'est de trouver son contrat d'assurance et d'appeler son assureur. Et lui va vous indiquer la marche à suivre. Et là, vous pouvez commencer, évidemment, les démarches pour savoir qu'est-ce qui est couvert. Parce que ça, vous pouvez avoir pris, tu sais, je vais vous donner un autre exemple, vous pouvez avoir pris une assurance pour refoulement d'égouts, par exemple. Alors, si vous êtes juste en marge de l'inondation, ben il est possible que ce soit vos égouts qui refoulent et que là, vous ayez droit à certaines indemnisations. C'est pour ça qu'il faut, comme je vous dis, vraiment prendre le téléphone, appeler son assureur dès le début. Il va vous expliquer la marche à suivre. Et puis, évidemment, on peut prendre des photos. Là, s'il y a un dégât, c'est une bonne idée de prendre les photos, les vidéos, mais aussi de garder les factures de toutes les dépenses qu'on va encourir, justement, pour la subsistance. Si c'est prévu au contrat, vous allez être indemnisé.
Dans certains cas, il y a eu des ordres d'évacuation. Dans d'autres, ce sont des avis d'éviction. Des conditions souvent qui peuvent faire une différence dans ce qui sera couvert et ce qui ne sera pas.
Oui. Par exemple, si vous avez une voiture qui est inondée, vous avez une voiture dans votre cour puis il y a une inondation, à ce moment-là, ça se peut que la voiture soit couverte par votre assurance auto. Si vous avez, à condition évidemment d'avoir l'avenant, là, vol vandalisme, ce qu'on appelle communément un tout risque, là, ça se peut que votre voiture soit couverte. Maintenant, si vous n'avez pas d'avenant inondation, eh bien, c'est beaucoup plus difficile. Là. Ça dépend vraiment du type de dommage. Et là, il est possible que, comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce type d'avenant au moment où on se parle, parce que c'est relativement nouveau au Canada. On va devoir y aller au cas par cas avec le contrat.
Leonardo, vous, d'origine argentine, mais de l'ouest de l'Argentine, au pied là, de la cordillère des Andes, mm-hmm. dans le coin chez vous, est-ce qu'on a connu des périodes comme ça dans votre pays d'origine?
Non, que je me rappelle, non. C'est plutôt, en fait, dans la province de Córdoba.
Plus au
nord, mais l'histoire, c'est que c'est les petits villages qui étaient faits à côté de la rivière, puis ils ont changé les courses de la rivière pour pouvoir bâtir le quartier. Mm-hmm. Puis là, dans certains temps, il y a eu beaucoup de pluie, puis là, oui, il a débordé la rivière, mais c'est pas comme ce qu'on a vu
est-ce
cette semaine.
Ici, c'est ça.
C'est
mm-hmm.
incroyable.
En contrepartie, cette zone, elle est tectoniquement parlant très, très instable. On connaît beaucoup de tremblements de terre de l'autre côté, Chili. Qu'en est-il
du côté argentin? En Mendoza, les pires tremblements de terre de l'Argentine se sont passés à Mendoza. Mais Mendoza puis San Juan sont près de Cordillera des Andes. Mm-hmm. Et la construction, c'est différent au reste du pays. Parce qu'il faut qu'ils fassent les maisons beaucoup plus résistantes parce que c'est une zone sismique.
Inondation et ou tremblement de terre, qu'en est-il de l'assurance? Est-ce qu'on parle d'assurance aussi en Argentine dans ces cas-là?
Oui, mais c'est les assurances en Argentine, je ne me rappelle pas, mais j'ai eu une fois un accident en auto, puis c'est difficile avec les assurances. Ici, je pense que c'est moins compliqué.
D'accord.
Mais c'est surtout la même chose, il faut qu'il soit écrit.
Puis, tout.
Exact. Ouais, sinon,
dans les journaux, tout récemment, en fait, cette semaine, on pouvait lire que le Canada est un des derniers pays du G8 où on commence à offrir une couverture pour les crues printanières, pour les tremblements de terre, ces crues-là qu'ont vécu plusieurs Canadiens.
En fait, les changements climatiques, ils vont provoquer des dégâts comme ça de plus en plus souvent. Alors, c'est sûr et certain qu'il va falloir qu'il y ait quelque chose qui change, parce que sinon, ça va être compliqué. Hein?
Maryse a demandé à Marc Levasseur les raisons de la longue attente canadienne.
Ce que les assureurs disent là-dessus, en fait, c'est qu'ils font des représentations auprès du gouvernement fédéral pour essayer d'avoir ce qu'on appelle une assurance nationale ou un régime d'assurance nationale, si vous voulez, pour couvrir justement ce genre de séisme. Évidemment, le risque, les assureurs, si on regarde les chiffres de premier abord, on voit qu'il y a 30 ans, par exemple, c'était les incendies qui étaient la première cause de sinistre. Maintenant, ce sont les inondations. Et évidemment, avec les changements climatiques, il est possible que ça s'aggrave, cette situation-là, ou que ce soit plus fréquent. Alors, ça va devenir vraiment quelque chose qui va être un petit peu incontournable. Alors, les assureurs, ils font, comme je vous dis, des représentations auprès du gouvernement pour tenter justement d'avoir une espèce de programme qui va faire en sorte que ça va coûter moins cher pour les assurés de souscrire ces avenants-là. La balle est dans le camp de tout le monde. Je pense qu'il y a des représentations qui se font au moment où on se parle. De toute façon, les autorités prennent généralement des mesures. On n'a qu'à penser au programme gouvernement du Québec là, qui offre justement une aide aux sinistrés qui ne sont pas couverts par les assurances, une aide qui peut aller jusqu'à 150 000 $ canadiens. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de choses. C'est une nouvelle réalité en quelque part. Là.
Et pendant ce temps, aux États-Unis, il y a beaucoup de climato-sceptiques qui sont au pouvoir. Marc Levasseur, porte-parole de Kinetics, une société spécialisée dans l'offre d'assurance de différentes compagnies sur le web. C'est un dossier signé Maryse Jobin. Vous écoutez Tam Tam à Radio-Canada International. Léo, une belle histoire.
Dis-moi.
Ouais. Marie-Émilie Mimi Sambou. Ça vous dit quelque chose?
Non.
Elle manque pas d'énergie. Tous les matins, elle donne des cours de pâtisserie à deux jeunes à l'école qu'elle a fondée en 2014, le goût du palais chez Mimi. Palais, bien sûr. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut savoir une chose qu'ici, à Radio-Canada International, Leonardo aime beaucoup la cuisine de Leonora Chapman qui fabrique un excellent crème brûlée et comme il le dit lui, comme elle le faisait ma
con
mère.
Con dulce de leche.
Con dulce, oui, c'est ça. Avec de la douceur lactée. Non, dulce de leche, c'est essentiel ça. Mais par contre, là c'est une autre chose. Après avoir donné ses cours, Mimi reste dans la cuisine pour préparer des gâteries qu'on lui commande pour qu'on arrive à la maison. Une autre mission tout aussi prenante, tout aussi passionnante, qui peut vous surprendre quand elle occupe ses soirées. Écoutez bien ça, c'est Paloma, notre collègue Paloma Martinez, qui nous raconte son histoire.
Je m'appelle Marie-Émilie, mais on m'appelle, mon petit nom, c'est Mimi. Je viens du Sénégal et je suis arrivée ici avec mes enfants. Je suis une mère monoparentale de 7 enfants.
7 enfants?
Oui, c'est ça. C'est le petit point là que tout le monde, quand je l'ai dit, et puis tout le monde, ils sont ébahis. J'ai 4 garçons et 3 filles. Mon garçon est né à 30 ans, 32 ans maintenant. Ma fille a 28 ans. Mon autre garçon, qui va bientôt faire Polytechnique, il a 21 ans. Et j'ai un garçon de 18 ans, le mois de mars passé. J'ai une fille de 17 ans et j'ai une fille de 14 ans. Et un petit garçon, mon dernier, qui s'appelle Jamil, qui a 8 ans. Ils sont tous avec moi, qui sont à l'école. Et puis d'autres ici vont bientôt aller à l'université. Et j'ai un garçon qui vient de se marier aussi. Avant de venir ici, j'étais designer de mode dans mon pays. J'avais une petite école, je formais des élèves pour la couture. Mais quand mon mari est décédé, il fallait changer de job. Là, je suis retournée faire une formation ici à Montréal. Et je suis devenue maintenant pâtissière. Je fais des gâteaux, je fais de la boulangerie, je fais traiteur en même temps et je viens d'ouvrir mon école sur Côte de Neige.
Dites-nous, quelles sont les principales satisfactions que vous avez avec cette école depuis que vous l'avez fondée?
Le plaisir que j'ai dans cette école, c'est de voir une personne qui rentre dans cette école et qui ne sait même pas tenir une douille. Et au bout de 3 mois de formation, il arrive à vendre des produits. Et aussi pouvoir aller vite dans le marché du travail. Parce que ma façon d'enseigner, je me suis basée plus sur le côté pratique, 100% pratique. Je m'efforce à vouloir leur donner le maximum, vraiment, pour pouvoir aller vite dans le marché du travail.
Et si on parlait des défis? Parce que ce qui caractérise le mieux les entreprises, c'est vraiment les défis auxquels les entrepreneurs sont confrontés à tous les jours. Donc, si on parlait de ces défis-là, lesquels vous diriez qui sont les plus importants?
Les défis, c'est surtout la persévérance. Quand on manque d'ambition, quand on manque de persévérance, quand on manque de patience, c'est très difficile. Il faut vraiment attacher la ceinture, se priver de beaucoup de choses et de se consacrer à travailler pour pouvoir relever ces défis. Ce qui nous fatigue souvent, c'est le loyer. Le loyer coûte très cher. Mais avec la persévérance et ce que tu crois, surtout, il faut croire ce qu'on est, il faut croire d'où on vient et puis mettre aussi nos propres valeurs, les bons. Ça aide. Et puis aussi, voir des élèves sortir avec quelque chose, ça te pousse encore à continuer. Et je sais qu'au bout du tunnel, on pourra voir une flamme qui va s'allumer.
Donc vous diriez que les satisfactions ont plus de poids que les défis auxquels parfois vous êtes confrontés.
Oui, ce qui me tient, parce que pour les débuts, avoir cet enfant monoparental et puis retourner à 45 ans pour prendre des études, pour changer de métier, c'est ça qui me pousse à tenir les élèves qui sont là et qui... J'aime transmettre mon savoir. Je me suis dit que si parmi 10 élèves, il y a une qui devient pâtissier, c'est comme si j'ai gagné aujourd'hui.
Marie-Émilie Mimi Sambou, une pâtissière au grand cœur, au micro de Paloma Martinez. Dans le cadre du Festival Accès Asie, parce qu'en fait, on est en plein mois du patrimoine asiatique au Canada, donc le festival qui se déroule à Montréal, il y a un week-end le plus loin, là, le 26 au 28 mai. On vous invite à venir célébrer les danses indiennes. Le volet, le spectacle, en fait, le contexte, ça se nomme Perle d'ailleurs, Perle au pluriel. La danseuse américaine Colina Shakti et le jeune prodige montréalais, et je dis bien prodige car c'en est un, Tanvir Alam, tous deux vont offrir ces perles d'ailleurs à la découverte des danses de l'Inde, l'Inde millénaire. Montréal, dans tout ça, ben Tanvir est né à Montréal. Il vit aujourd'hui à Toronto. Il poursuit des études en danse au programme de formation professionnelle de la School of Toronto Dance Theatre. Et puis, il revient à Montréal présenter un échantillon de sa progression. Je lui ai parlé cette semaine. Voici quelques moments de notre entretien.
J'ai commencé ma formation en danse classique indienne, le Qatar pour être précis, à Montréal. Je suis né à Montréal. J'ai passé la majorité de ma vie à Montréal. Dans le fond, mes parents voulaient que je fasse quelque chose de culturel, puis j'aimais beaucoup danser quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai commencé par faire de la danse classique indienne. J'ai fini par beaucoup aimer ça. J'ai décidé de faire ça comme carrière. Puis, en même temps, j'ai commencé à faire de la danse contemporaine. J'ai commencé à faire du ballet. Et donc, pour poursuivre cette formation, j'ai déménagé à Toronto pour étudier au School of Toronto Dance Theatre, où ils nous enseignent la danse contemporaine, particulièrement le Graham. C'est un style de danse moderne créé par Martha Graham. C'est basé sur les contractions et les spirales, c'est les plus importants de la danse contemporaine et moderne au monde. Le katak est un style de danse classique indienne qui vient du nord de l'Inde. Il y a trois styles de katak qui viennent de trois villes en Inde. Le katak est très rythmique. Il faut avoir une musicalité très forte. C'est très expressif comme style de danse. Il y a beaucoup de pirouettes, de travail de pied. On travaille beaucoup avec les personnes qui jouent les instruments. C'est vraiment un style qui prend beaucoup de forme. Ça peut être très doux, ça peut être très vite, ça peut être très agressif, ça peut être très sensuel. C'est vraiment un style qui peut montrer tout ce qu'il y a dans ce monde vraiment. Donc, le spectacle, c'est le 25 mai. Moi, je vais présenter deux pièces. Une pièce classique, purement classique, basée sur le répertoire du katak. Donc, ça va être une pièce sur un cycle rythmique de 14 temps qui se nomme le Damar, dans lequel je vais présenter plusieurs extraits du répertoire du katak pour un peu expliquer le style, montrer ce qu'on peut faire avec. Il y aura des pièces qui sont un peu plus douces, des pièces qui vont être plus énergiques. Et donc, je vais juste montrer tous les différents styles de danse qu'on pourrait voir dans la technique du katak. Dans la deuxième pièce, qui se nomme Éclosion, ça va être une pièce contemporaine et katak, dans laquelle je vais pouvoir montrer un peu de mes créations, de ce que j'aime faire dans le katak, de ce que j'aime faire dans la danse contemporaine, comment que j'aime les joindre. Et dans le fond, la pièce travaille sur l'idée de ne pas avoir un thème précis. Dans un cycle rythmique sur 14 temps, en danse indienne classique, le drama, c'est un cycle rythmique de 14 temps qui est divisé par des sections. Et donc, c'est compté par des numéros, dans le fond. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le compte avec des syllabes qui sont jouées par le percussionniste. Et si j'étais pour le compter, ça fait que, di, te, di, te, da, a, ga, di, ne, di, ne, ta, a. Si on devait pour compter ça, ça ferait 14. On est très loin du 4-4. Le hindi, qui est la langue nationale de l'Inde. Je parle le hindi, je parle le bengali et le français et l'anglais, donc quand même.
Tanvir Alam, danseur, les spectacles, c'est dans le cadre d'Accès Asie. Je vous souhaite la meilleure chance du monde pour la suite des choses, que vous puissiez aller en Inde étudier cet été et surtout une belle performance dans le cadre du Festival Accès Asie. Tanvir Alam, merci beaucoup.
Merci à vous.
Comment on dit merci en hindi?
Dhanyavad.
Dhanyavad.
Oui.
Merci beaucoup, c'est gentil à vous.
Merci.
تفاصيل النشرة من راديو كندا الدول.
كندا 国际广播电台.
Vous écoutez Radio Canada International.
Radio Canada International.
Uno, dos, tres, cuatro.
Esta es Radio Canada International.
2006, il y a 11 ans, Angelina Gionnet s'installe à Fort McMurray, ça c'est dans le nord de l'Alberta. Son mari travaille là depuis quelque temps. Sauf qu'elle, elle était encore chez elle au Nouveau-Brunswick. Originaire donc du Nouveau-Brunswick, dans l'Est du Canada, très engagée dans les organismes d'aide communautaire, Mme Gionnet ne peut vraiment pas s'empêcher, une fois arrivée dans la capitale des sables bitumineux au Canada, de s'impliquer au sein de ce qu'on appelle l'ACFA de Wood Buffalo. L'ACFA, c'est l'Association canadienne-française régionale de l'Alberta. Elle va participer à la mise en place de plusieurs nouveaux services, tant pour les francophones qui vivent là que pour les migrants, ceux qui viennent, mais aussi de plus en plus pour les immigrants, ceux qui décident de s'installer à Fort McMurray. Maryse Jobin s'est entretenue cette semaine avec Angelina Gionnet, directrice générale régionale de l'ACFA de Wood Buffalo. Voici quelques moments de cette conversation.
Mon mari travaillait ici, ça faisait 6 ans. Moi, je travaillais au Nouveau-Brunswick avec le Centre national en vie carrière. Je faisais de l'animation auprès des jeunes mamans monoparentales. Puis en 2006, le projet a fermé. En tout cas, moi, mon contrat n'a pas été renouvelé. Ça fait que j'ai décidé de venir rejoindre mon mari ici en Alberta. Quand j'ai déménagé en Alberta, comme j'avais toujours travaillé beaucoup au niveau de la communauté, auprès des femmes, des enfants, je m'étais dit, change de carrière. Je m'en vais dans le privé. Je suis comme tannée, là, à chaque fois qu'on travaille dans le communautaire, dans le social, pour toujours travailler, aller chercher des fonds. Puis je me disais, je vais aller travailler dans le privé, puis je n'aurai pas à gérer les fonds. Quand je suis arrivée en Alberta, je cherchais une association francophone. J'avais vérifié sur Internet et tout ça à Fort McMurray. On ne trouvait rien. Mais quand je suis arrivée, j'ai décidé de ne pas travailler tout de suite, mais de m'acclimatiser. Je marchais un après-midi, quelques jours après que j'étais là, puis j'ai vu ça. C'est une affiche qui disait « Association francophone de la régionale Wood Buffalo ». Wow! Je suis rentrée tout de suite, je me suis dit « je vais aller chercher ma carte de membre ». Puis, quand je suis allée chercher ma carte de membre, c'est là que j'ai appris qu'il y avait un poste ouvert à la direction de la CFA. Ça a été plus fort que moi, j'ai dû appliquer pour le poste. Tu sais, comme j'étais tellement choyée, puis j'ai tellement eu de gratitude pour le travail qui avait été fait en francophonie avant mon arrivée. Il y avait le centre communautaire, il y avait l'association francophone, il y avait l'école francophone. Il y avait un petit service d'aide à l'emploi aux francophones. Je trouvais ça, wow! Les gens avant nous ont tellement laissé un bel héritage. Fait, moi, je me suis dit, je vais construire là-dessus maintenant. Fait, j'ai regardé alentour, c'était quoi les programmes qui existaient puis qu'est-ce qui n'existait pas surtout. Puis c'est là que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de service à la petite enfance. Fait, tout de suite, ça a été un de mes premiers projets que j'ai travaillé dessus. J'ai commencé ça en 2007. Puis en 2009, on rouvrait la première garderie francophone à Fort McMurray. Parallèle à ça, on avait beaucoup de demandes à la clientèle francophone de tous les niveaux. On avait tellement de clients qui rentraient. Mais il y avait aussi une grande majorité de francophones immigrants, pas migrants, mais immigrants, qui arrivaient d'ailleurs. Puis je me sentais tellement démunie. J'avais appelé le directeur de la CFA provinciale dans ce temps-là, c'était Joël Laurier. J'avais dit à Joël, mon Dieu, moi, tu sais, comme je suis pas formée en immigration puis tout ça, c'est là qu'il a dit, OK, tu vas siéger sur le comité provincial du RIFA, qui était le Rassemblement à l'immigration francophone albertaine. J'ai siégé sur le comité. jusqu'à ce que finalement on a réussi à faire comprendre nos besoins dans les régions. Finalement, on a eu un projet pilote à Fort McMurray pour les nouveaux arrivants francophones. Fait qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle maintenant, ce projet-là existe encore. Puis ils ont 4 employés plein temps. Dans un avenir rapproché, là, je prends ma retraite de ce que je fais ici. Ça, c'est certain. Je veux passer à autre chose. J'ai autre chose à faire. J'ai toujours écouté mon cœur, puis je le sais quand c'est le temps de bouger. J'ai changé de carrière souvent dans ma vie. Dans tout ce que j'ai entamé, je l'ai fait à 100%. Puis là, j'ai donné ce que j'avais à donner ici. Il faut que je laisse la place à des plus jeunes pour qu'eux continuent à construire aussi.
Angelina Gionnet, directrice de l'ACFA régional de Wood Buffalo. En avril dernier, Mme Gionnet a reçu le prix Suzanne Lamy-Thibodeau, qui est décerné à une femme francophone en Alberta qui se dévoue pour l'avancement des femmes francophones dans cette province des prairies canadiennes. Voilà, c'est tout pour notre tam-tam d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci à Chantal Saint-Sauveur à la régie et à Léo Gimeno. Aux images, Facebook Live, Facebook en vie, oui. Ici Raymond Desmarteaux, allez, au revoir. À bientôt.